Ou énerver la suite ce soir, ce sera 100% taxe avec nos quatre invités. On va d'abord faire un tour de table pour caler les micros de chacun et de chacune. Je commence par vous, Jean-Baptiste Noé. Vous êtes docteur en histoire économique, co-auteur de La révolte fiscale, histoire et théorie de l'impôt. C'est paru chez Kalman Lévy. Ça vous va?
C'est très bien.
C'est très bien. Henri Sterniak, vous êtes économiste, membre du collectif des économistes atterrés, j'adore ça, et co-auteur du livre Macron, un mauvais tournant aux éditions Les liens qui libèrent. Ça vous va comme présentation?
Parfait.
C'est parfait. Pascal Tournier, rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire La Vie.
Parfait.
Et vous revenez du Grand Oral au Grand Palais.
Exactement.
Très bien. Et Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP, le think tank indépendant qui évalue les politiques publiques. Et vous avez signé En marche vers l'immobilisme, 20 réformes lancées, oui mais, point de suspension, chez Albin Michel. C'est parfait.
C'est parfait.
Très bien. La présentation est OK. Générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Au Énerver la suite ce soir, on reste sur le fil de l'actualité car cette semaine, c'est le lancement de la campagne officielle sur l'impôt sur le revenu. Et oui, car malgré l'entrée en vigueur début janvier du prélèvement à la source, nous sommes encore tenus de remplir la déclaration, mais ce sera, nous promettons, la dernière fois. Alors, où en est la France avec sa politique d'imposition? Emmanuel Macron a mis fin à l'ISF pour éviter, dit-on, la fuite des grandes fortunes à l'étranger. Les Gilets jaunes ont réclamé à corps et à cri sa réintroduction, le président tient sa position et a même exclu que cela puisse faire partie du grand débat. Alors justement, à l'heure du bilan de ce grand débat et des annonces tant attendues, qu'est-ce qu'on nous réserve? Gérald Darmanin annonce que les impôts vont encore baisser. Super, on va toiletter les niches fiscales. Ok, on va parler de supprimer la redevance audiovisuelle, la taxe d'habitation pour tous d'ici 2022. On envisage de taxer les GAFA. Bon, mais où trouver par exemple les 10 milliards d'euros par an pour prendre en charge le grand âge? Bref, on en est où avec l'impôt? Et pour quelle raison tout passe chez nous par les taxes? Impôts, une passion française? C'est la question que l'on se pose ce soir avec Christophe Bourseiller, car au Énerver la suite, on passe à la caisse.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Bourseiller.
Écoutez Laurent, l'impôt, c'est Laurent, la plus récurrente des obsessions françaises, Laurent. Prenez au hasard le mouvement social des Gilets jaunes. Initialement, c'est une révolte antifiscale. Et le grand débat qui n'en finit pas de se clore, il nous parle de quoi? Faut-il rétablir l'ISF? Va-t-on enfin supprimer la taxe d'habitation? Va-t-on supprimer la redevance de l'audiovisuel? Passerons-nous à la TVA à 0% sur les produits de première nécessité? Va-t-on réduire la taxe sur les carburants? Va-t-on promulguer un impôt sur la transition écologique? Et en fin de compte, va-t-on abaisser l'impôt sur le revenu? Oui, Laurent, oui. L'impôt est la principale ritournelle des Français. Mais enfin, c'est normal, puisque c'est quand même une dépense importante. La France est, paraît-il, le pays le plus imposé au monde, et on en redemande. Toujours plus d'impôts, de taxes, de prélèvements, sans parler de la dématérialisation qui complique tout et qui jette sur le bas-côté tous ceux qui n'ont pas Internet. Mais dans quel monde vivons-nous, Laurent? Enfin, Henri Sterniak. C'est le débat le plus récurrent du quinquennat. Faut-il rétablir l'impôt sur la fortune? Mais si on rétablit l'ISF, ne risque-t-on pas de briser une dynamique économique qui profite à la France en faisant fuir les entreprises? Qu'en pensez-vous?
Du mal.
Non, jusqu'à présent, cette dynamique économique, on l'a pas vue. Hein. Je veux dire, Macron est arrivé au pouvoir en disant « je vais libérer l'économie en supprimant l'ISF et en réduisant le droit du travail ». Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Hein. La croissance en glissement, elle avait été de 2,8% en 2017, elle a été de 1% seulement en 2018. On n'a rien vu de ce qui était promis.
Pascal Tournier, vous étiez ce matin au Grand Oral.
Tout à fait, j'étais au Grand Oral. Et alors, il y a peut-être deux observations qu'on peut tirer de ce Grand Oral, c'est qu'effectivement l'impôt, je vous rejoins Christophe, était au centre des discussions et même au centre des discussions de tous les Français, enfin de ceux qui ont participé au grand débat. Et la deuxième observation, c'est que tous demandent moins d'impôts.
Enfin, globalement, ça, c'est pas une surprise. Hein.
Globalement, on demande moins d'impôts. Donc, il y avait les phrases qui sont ressorties. C'était arrêter cette usine à gaz, ras-le-bol fiscal. C'était véritablement la note de ce matin. Et troisième élément, peut-être qu'on peut souligner, c'est que, par exemple, curieusement, les revendications des Gilets jaunes, alors d'ailleurs, le mot Gilets jaunes n'a jamais été prononcé ce matin. D'ailleurs, je le fais petite parenthèse, à croire qu'on ne parlait pas trop de ce qui se disait sur les ronds-points. Mais toujours est-il que, donc, parmi les revendications qui ont été énoncées ce matin, il n'y a pas tellement le rétablissement de l'ISF a été abordé, mais je dirais, les pourcentages qui ont été mis en avant ne sont pas très élevés. On est plutôt autour de 25%, donc c'est pas massif. On est plutôt véritablement sur une baisse des impôts. Aussi, deuxième, par rapport aux impôts, ce qui était assez intéressant à souligner, c'est que 58% sont contre la taxe carbone. Donc véritablement, on ne veut pas de nouvelles taxes. On veut même plutôt le baisser. Alors, et après, évidemment, si on qui dit baisse d'impôts, c'est ces baisses de la dépenses publiques. Donc là, c'est assez massif aussi. Demande ce que l'État fasse sa petite cure d'austérité.
Agnès Verdier-Molinier, vous avez non pas assisté au grand oral, mais vous avez regardé ce qui s'est dit et qu'est-ce que vous en concluez
de cette restitution.
Je trouve que c'est très encourageant parce que se dire que les Français sont contre les taxes carbone, mais aussi finalement plutôt majoritairement contre le rétablissement de l'ISF, ça prouve qu'ils sont très avancés par rapport à la plupart de leurs dirigeants. Parce qu'ils ne sont pas juste pour refiler la patate chaude fiscale à quelqu'un d'autre. Ils sont pour que globalement, le niveau de la fiscalité baisse. Et c'est très encourageant parce que j'ai craint, vraiment, pendant le mouvement des Gilets jaunes, qu'on oppose les uns et les autres et que ça tourne au pugilat. Alors que finalement, j'ai l'impression que le grand débat va nous élever vers quelque chose de plus constructif, de plus intelligent, de plus intéressant, et que ça va être justement de se poser la question pour chaque euro d'argent public mis dans la machine, finalement, est-ce qu'il sert ? Est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser différemment ? Est-ce qu'on pourrait pas dépenser mieux et moins ? Et je crois qu'il y a aussi une idée qui est en train de percoler, de se disperser partout, qui est de dire, bah oui, mais l'impôt, on ne peut pas vraiment le baisser si on ne baisse pas la dépense. Et ça, pour moi,
et pourtant, c'est ce que dit,
tellement important.
C'est ce que dit Gérald Darmanin, c'est-à-dire baisser encore l'impôt.
Oui, mais baisser encore l'impôt, en réalité, c'est... Oui, mais là, on est dans, en quelque sorte, une sorte de marketing politique.
D'éléments de langage.
Si on regarde véritablement, en enlevant les lunettes du gouvernement et en se posant la question sur les chiffres, là, pour l'instant, on est dans une stagnation de l'impôt. C'est-à-dire qu'en entre 2017 et 2018, on n'a pas baissé l'impôt. On stagne, on est très très haut, on est les plus hauts, hein, Christophe l'a dit. On est le pays qui taxe le plus à la fois les Français, les ménages, mais aussi ses entreprises, hein, faut pas les oublier. Et en 2019, il va y avoir une baisse, mais qui est liée au double compte CICE, baisse de charges. Je ne sais pas si on y reviendra, hein, c'est qui fait que en fait, ce crédit d'impôt pour les entreprises devient une baisse de charges. Mais ensuite, dans les années suivantes, et ça c'est la trajectoire gouvernementale, eh bien ça remonte en 2020, 2021, et ça devrait rebaisser un tout petit peu en 2022. Donc en fait, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas parti vraiment pour une baisse de l'impôt. C'est normal, pourquoi ? Parce qu'en face, on n'a pas la feuille de route sur la baisse de dépenses. Tant qu'on ne l'aura pas, on ne pourra pas croire décemment qu'il va y avoir une vraie baisse d'impôt.
Jean-Baptiste Noé, en vérité, le gouvernement prévoit, dans les années à venir, une légère baisse de l'impôt. Il prévoit une baisse du taux de prélèvement obligatoire de 1,5 point entre 2017 et 2022. Donc, il prévoit une petite baisse. Le tout, ensuite, c'est de savoir, est-ce que c'est crédible ? Il faut se rappeler que nous avons actuellement une impasse. Le gouvernement a une impasse de 25 milliards, puisqu'il a décidé de supprimer la taxe carbone, qui devait rapporter environ 13 milliards, il a allégé l'augmentation de la CSG sur les retraités 2 milliards et enfin, il a été obligé de dire on va supprimer la taxe d'habitation
jusqu'à
pour
2022,
tout le monde.
Pour tout le monde en 2022.
Fait, d'accord, mais l'ensemble fait un ensemble de 25 milliards de baisse d'impôts annoncées sans que, jusqu'à présent, on sache comment ça va être
comment
compensé.
Ce que je tire de ce matin, c'est que finalement, j'ai le sentiment quand même que les Français, d'une certaine manière, demandent tout simplement plus d'autonomie. C'est-à-dire qu'ils se disent, l'État, finalement, que ce soit, on l'a vu au début, c'était la taxe carbone qui les a gênés dans leur déplacement. Et donc, je pense que c'est ça le message aussi qui est un peu véhiculé derrière, c'est que finalement, que l'État, soit, qu'on vive dignement de notre travail, mais que, qu'on soit plus autonome dans notre mode de vie.
Jean-Baptiste Noé, Latéré.
Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut diminuer les impôts. La difficulté, ça va être de définir quelles dépenses publiques on baisse. Et là, il y risque d'y avoir d'autres révoltes. Est-ce qu'on est prêt à diminuer les cotisations sociales ? Est-ce qu'on est prêt à une cotisation libre de la sécurité sociale ? Est-ce qu'on diminue les prestations des mairies, puisqu'on va aborder la taxe d'habitation ? Moins de taxe d'habitation, ça veut dire moins de finances pour les mairies. Et là, les problèmes surgissent parce que l'impôt, généralement, on le fait payer par les autres et on est d'accord pour qu'il y ait moins d'impôts, mais pour qu'il y ait plus d'État et plus de dépenses publiques. Et ce couple-là ne peut plus fonctionner. Ou alors on le fait payer par la dette qui devient très importante et qui est un impôt que l'on fait payer sur les gens qui ne sont pas encore nés.
Là, ce matin, je le signale, curieusement, dans les propositions qui ont été faites et qui ont été donc restituées ce matin, il y avait plusieurs postes par rapport à la taille des dépenses publiques. C'était la défense, la politique du logement. Voilà, je le soumets au débat.
D'abord, contrairement à ce que vous venez de dire, tout le monde n'est pas d'accord ici pour baisser l'impôt. Personnellement, je pense que
vous voulez
nous
augmenter.
Avons besoin d'un
vous
niveau
très populaire.
Important.
Son nom est Henri Sterdyniak.
Nous avons besoin d'un niveau important d'impôts et de cotisations sociales pour financer notre modèle social, pour financer l'école, pour financer la santé, la retraite,
le
etc.
grand âge, exactement.
La dépendance. Deuxièmement, les Français veulent être autonomes, d'accord, mais il faut rappeler que la taxe carbone, c'est pas une décision française. La taxe carbone, c'est tous les économistes à l'échelle mondiale disent, il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, un des éléments importants, pas le seul, mais un des éléments importants, c'est effectivement de faire payer les émissions de carbone. Alors on peut dire, personnellement, je suis pas intéressé. La transition écologique, ça m'embête. Je préfère être autonome. Mais le fait est que on a besoin d'une façon ou d'une autre d'une taxation carbone.
Ce matin, encore une, là, je vais, pardon, je m'appuie que ce qui a été dit ce matin.
D'accord.
Et vraiment la restitution de vraiment des grands débats. Alors certes, encore une fois, ce ne sont pas tous les Français. Là, je vous l'accorde. Il y avait les chiffres qui ont été donnés, c'était 1,5 million de Français. Et on le sait, c'est pas forcément représentatif sociologiquement de l'ensemble des Français. Mais sur la question écologique, curieusement aussi, il y a eu beaucoup de propositions qui sont remontées et qui montrent que les Français sont très au fait et très matures aussi sur le diagnostic. Ils ne sont pas du tout climato-sceptiques et ce n'est pas juste je ne fais rien. Non, non, il y avait un véritable aussi volonté d'agir au niveau individuel.
Mais qui ne passerait pas par une taxe. Bien sûr qu'il ne passerait pas par une taxe. On va revenir sur ce dossier dans quelques instants. On reviendra plus précisément aussi sur quelque chose qui nous intéresse, Christophe Bourseiller, notre avenir.
Oui,
la redevance audiovisuelle. Tout de suite, je vous propose d'écouter un blues cajun et anticapitaliste. Il est signé Leila Makkala. C'est dans le NRV. Money is King.
If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free, live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. At the door, Carlton lads to take down anything, whiskey, cloth, earring, and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you'd like, and not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. A good breed and not too wild, people will take it in mind as a child. But when a hungry man goes out to beg, they send a bulldog behind his leg. 20 policemen will take him down too. You see how a dog is better than you. Tell you, shoot, a dog is better than you. Mm-hmm.
Je crois que ce qui est très important, c'est de baisser les impôts dans notre pays.
Le nouveau rendez-vous.
Que vous ayez 15 000 euros par mois ou 2 000 euros par mois, vous payez la même somme, 139 euros. Donc je pense que s'il y avait un impôt à supprimer, ça pourrait être la redevance télé.
Laurent Goumard.
C'est la loterie, la taxe d'habitation.
Sur 3 années, la taxe d'habitation sera supprimée en 3 tranches pour 80% de la population française.
Moi je considère que si on supprime un impôt, il faut le supprimer. Donc
100%.
Ma position c'est plutôt, si on supprime un impôt, de le supprimer complètement.
Sur France Inter.
Pour énerver la suite, l'impôt, une véritable passion française, c'est le titre du débat. On en parle avec nos invités, la journaliste Pascale Tournier, les économistes Jean-Baptiste Noé, Henri Sterdignac et Agnès Verdier-Molinet. On va parler de TVA, de niche fiscale, de taxes d'habitation, de cette redevance audiovisuelle qui nous sert bien, Christophe Bourseillet. Vous voulez reprendre la main?
Oui, juste une question que j'aimerais poser à Jean-Baptiste Noé. Vous sortez un livre qui s'appelle La révolte fiscale, dans lequel vous vous faites remonter les révoltes fiscales jusqu'à l'an 1000. Vous évoquez 1789 en disant c'était une révolte fiscale, et vous faites une remarque sur le modèle social français en disant « ni l'école ni la santé ne sont gratuites en France », et vous ajoutez un peu plus loin « les impôts, au fond, financent l'armée et la guerre ». Est-ce que c'est pas réducteur, une vision un peu réductrice du modèle social français?
Alors, c'est pas un peu caricatural. C'est en fait une évolution de l'impôt. L'impôt a longtemps servi pour financer les aspects régaliens, donc l'armée ou la défense, ça c'est à peu près jusqu'au 19e siècle, et maintenant l'impôt a changé de nature. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un impôt qui finance les services de l'État, on est dans un impôt qui a deux fonctions, c'est soit la redistribution ou alors un impôt comportemental. Donc aujourd'hui, l'impôt est dans l'idée de modeler la société. On a un impôt qui est constructiviste et qui cherche à modifier les comportements des personnes. Donc on a ce changement de nature de l'impôt qui est extrêmement important. Or, pour beaucoup de personnes, notamment dans l'occasion du grand débat, beaucoup de gens sont restés sur l'ancienne vision de l'impôt. Un impôt qui sert à financer le fonctionnement de l'État, le régalien.
Le bien-être, en théorie.
Le bien-être, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que d'un côté on défend l'armée, le bien-être c'est une définition qui est évidemment subjective, donc financer le bien-être ça devient déjà beaucoup plus compliqué.
Mais c'est pas le fonctionnement de l'État, je veux dire quand on finance les familles, le chômage, la retraite, les allocations maternité, la santé, l'école, on peut pas dire que c'est le fonctionnement de l'État.
Ces dépenses
bénéficient directement aux ménages, et c'est différent de deux autres rôles de la fiscalité secondaire actuellement, la fiscalité incitative qui a beaucoup de mal à se développer, comme on la voit avec la taxe carbone, et puis par ailleurs, la fiscalité redistributive, qui est une toute petite partie de la fiscalité en France, où les grands impôts, c'est quand même la TVA, la CSG et les cotisations sociales, qui sont quand même peu redistributifs.
Ça, c'est très récent, ça date de la mise en place de l'État-providence, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une vision qui est extrêmement moderne.
Ça fait quand même
70 ans. Hein. Oui, mais c'est très récent à l'échelle de l'histoire de France, qui a quand même plus de 1000 ans d'histoire. Donc c'était un élément qui est récent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'école ne date pas de Jules Ferry. Pendant très longtemps, on a eu un système scolaire qui était financé autrement que par l'impôt, avant que Jules Ferry et d'autres mettent en place une école d'État. Et c'est exactement pareil pour la santé. On n'a pas attendu les grandes lois sociales de 1946-47 pour avoir des mutuelles ou pour avoir des retraites. Ça existait déjà depuis le début du 19e siècle. La grande nouveauté, c'est que ça a été nationalisé. Et ça a commencé à la fin des années 30, notamment avec les lois de Laval, qui a été un des précurseurs de la mise en place
du système.
Si on a aujourd'hui une difficulté à s'entendre sur les termes, c'est aussi qu'il y a une complexité qui s'est rajoutée. C'est-à-dire que précédemment, on avait des cotisations sociales pour financer des régimes assurantiels. Donc, on s'assurait finalement pour le chômage, par exemple. Mais maintenant, on a supprimé la cotisation salariée et on l'a remplacée par de la CSG. Et donc, en face de la CSG, finalement, quel est votre droit? Quel est votre droit qui est inscrit en face d'une cotisation à la CSG? Vous avez aujourd'hui des expatriés fiscaux qui ne sont pas dans des situations où il y a une convention fiscale avec la France, qui payent de la CSG en France parce qu'ils ont des revenus fonciers en France, mais qui n'ont droit à rien en face. Alors, donc, on n'est plus du tout dans un système assurantiel clair et lisible. C'est pour ça, madame, que quand vous avez dit usine à gaz, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent plus dans la lisibilité du système. Parce que qu'est-ce qui est financé par l'impôt? Qu'est-ce qui est financé par des cotisations? À quoi me donne droit ce que je mets dans la machine publique? Dernièrement, il y a eu toute cette question de raboter, finalement, les droits à chômage, à indemnité chômage, de ceux qui ont des revenus importants, mais on ne leur propose pas en face de raboter leurs cotisations. Alors que théoriquement, vous avez un niveau de cotisation qui va être, par exemple, jusqu'à 13 700 euros par mois. Hein, donc, ça va être des montants assez conséquents. Et en face, on vous dit, bah oui, vous avez une allocation chômage qui ne peut pas dépasser les 6 600 ou un peu plus par mois. Mais on dit, ouais, mais c'est très conséquent, c'est beaucoup trop par rapport à d'autres pays. Mais dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont limité les allocations chômage, mais en face, ils ont limité le montant sur lequel on cotise. Maintenant qu'on est passé à de la CSG, c'est quasiment impossible de revenir en arrière et de dire, finalement, on va mettre en face d'un niveau de cotisation un niveau d'indemnisation quand on perd son emploi. Donc, on a mis dans le système, et c'est ce que j'explique moi dans mon livre, un niveau de complexité partout, où celui qui est vraiment très, très intelligent peut s'y retrouver, mais il faut vraiment qu'il soit
Le problème, c'est pas on. Il faut dire clairement les choses. Le système était tout à fait cohérent avant Macron. Le problème, c'est que Monsieur Macron fait des réformes incohérentes. Monsieur Macron a fait n'importe quoi.
La CSG avant
Macron ne finançait naturellement que des prestations universelles ou d'assistance. C'est Monsieur Macron qui a dit la CSG va financer le chômage.
Ce qui, bien sûr, est une erreur. Monsieur Macron
a décidé de supprimer la taxe d'habitation. Hein. Là aussi, c'est n'importe quoi.
Juste pour répondre, on a même évoqué dernièrement, ça n'a pas été retenu dans le débat public, mais on a même évoqué à un moment que la taxe d'habitation soit remplacée par de la CSG. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il fallait faire un jeu de transfert de fiscalité entre les départements qui auraient passé la taxe foncière au niveau des communes et de l'autre côté, les départements auraient été financés par de la CSG. Donc,
c'est les bêtises de Macron.
Je n'ai pas dit le contraire. Simplement, cette illisibilité du système fait que on est dans une situation où les Français n'en peuvent plus parce qu'en plus, on leur parle que des baisses d'impôts, mais jamais des hausses d'impôts. La taxe carbone, par exemple, à quel moment est-ce que vous avez vu quelqu'un du gouvernement dire « Pendant le quinquennat, il y aura 17 milliards de plus de fiscalité carbone sur l'énergie, etc. etc. » Personne n'a pris la parole au gouvernement pour annoncer cela. On ne parle que des baisses et pas des hausses.
Pascal Tournier.
Moi, juste une petite remarque, parce qu'on voit que c'est une vraie passion française,
manifestement.
Ce sujet. Et je trouve que l'approche historique est très importante, parce que finalement, l'impôt, quand même, d'une certaine façon, mais ça nourrit notre mythe fondateur de la République. Et on voit bien que l'impôt revient dans l'histoire. C'est ça, je trouve que d'avoir une approche historique comme Monsieur Noé est très intéressante. Revient à des moments clés de notre histoire et de notre compromis, si je puis dire, national. Donc là, aujourd'hui, si ça revient en premier lieu dans les restitutions du grand débat, c'est que je pense que fondamentalement, c'est notre pacte social républicain qui est en jeu.
Et quid de la redevance audiovisuelle, alors ? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il la supprimer comme on nous le promet depuis des générations? Comme quoi ça serait l'impôt inégalitaire par essence, puisque qu'on soit riche ou pauvre, on paye la même chose.
Il n'est pas absurde que, effectivement, certains impôts soit forfaitaire. Hein. Il faut juger globalement le système. On a des impôts qui peuvent être forfaitaires, parce que ça sert à financer un service dont tout le monde bénéficie. On a des impôts proportionnels, et ce qui est très important, c'est d'avoir en plus des impôts progressifs qui ciblent effectivement les plus riches.
La redevance
est effectivement tout à fait nécessaire. On a besoin d'avoir un service public de la radio-télévision et on a besoin de la financer. Sinon, on est dans une situation où effectivement, petit à petit, c'est le grand capital, le patronat, qui a tous les moyens d'expression. C'est déjà le cas
avec la presse.
C'est déjà le cas avec la presse. C'est le cas aussi, il faut le rappeler, pour les think tanks. Quand on dit un think tank est indépendant, il ne faut pas oublier qu'indépendant, ça veut dire financé par le patronat.
Ça, c'est pour vous, Agnès Verdier-Molinier, manifestement.
En plus je me porte en faux parce que plus de 80% des dons de la Fondation sont des dons de personnes physiques et des dons de moins de 100 euros.
Mais ce qu'on reproche, c'est de dire qu'il y a en France une hyper-fiscalisation. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que véritablement en France, il y a une fiscalité un peu créative, entre guillemets, et un peu folle?
Non, mais il n'y a qu'à regarder le taux global d'imposition de la France.
56%.
C'est-à-dire qu'on est dans les 45% hein, par rapport à la moyenne de la zone euro qui est à 40%. Ça veut dire qu'on a globalement, entre 4 et 5 points d'écart. Ce qu'a dit Henri Sterniak tout à l'heure, c'est que le gouvernement prévoit de baisser de 1 point ou 1,4. Effectivement, on ne sait pas comment il va faire parce que de l'autre côté, il a prévu des baisses qu'il ne finance pas, dont il n'annonce pas les financements. Donc, on peut en douter. Et pendant ce temps-là, les autres pays ont plutôt tendance à baisser leur fiscalité. Donc, il y a vraiment urgence.
Donc la France est un dinosaure.
La France
est un pays où les retraités ont le même niveau de vie que les actifs, alors que en Suède, par exemple, le niveau de vie des retraités est 25% de plus bas que les actifs. La France est un pays où on a à peu près 2 enfants par femme. On ferait des économies fabuleuses si effectivement on n'avait que 1,3 enfants par femme. La France est un des rares pays où le taux de pauvreté n'a pas augmenté depuis une vingtaine d'années. Bientôt, nous allons être en dessous
la balance aussi en face. La France est aussi le pays où on part le plus tôt à la retraite. La France est aussi le pays où on travaille le moins par an quand on est en activité. La France est le pays où les agents publics travaillent le moins par an. On a 200 heures d'écart avec les Allemands. La France est aussi le pays où il y a le plus de communes, d'interco, de strates administratives.
Donc,
la France est aussi le pays où on gère pas très bien, où il n'y a pas d'ouverture de la données publiques sur plein de sujets, notamment les aides sociales. On empile les aides sociales, on a 200 aides différentes, on en a 50 sous critères de revenus, alors qu'on pourrait avoir une seule aide plafonnée et imposable. Là aussi, vous avez parlé tout à l'heure de l'impôt pour tous. C'est pas étonnant parce qu'il y a énormément
34%
d'aides. 34%. Oui, c'est normal parce que il y a le sentiment que finalement, soit on est en dehors de l'impôt et on est financé par des aides, et soit on est dans l'impôt et on est au SMIC. Et entre les deux, finalement, il y a le sentiment que on bascule de l'un à l'autre sans transition.
Jean-Baptiste
et qu'on peut vivre aussi bien
Jean-Baptiste
avec des aides.
Il y a un vrai enjeu démocratique derrière parce que on ne sait pas combien coûtent réellement les coûts, par exemple l'école. Beaucoup de gens pensent que l'école est gratuite alors que c'est plus de 70 milliards d'euros de dépenses par an minimum.
Tout le monde sait ça.
Puisqu'on répète sans arrêt que l'école est gratuite. On dit que l'université est gratuite alors qu'un étudiant coûte à peu près 12 000 euros par an. Et de l'autre côté, on ne sait pas combien on paye. La fiche de paye est illisible. On ne sait pas vraiment combien on cotise pour tel et tel élément, la retraite, la sécurité sociale. Et donc, un des enjeux de la démocratisation, de la démocratie tout court, c'est de savoir exactement combien on paye d'impôts et combien coûtent les services qu'on a en regard.
C'est exactement l'inverse. On est un des rares pays où, effectivement, sur la fiche d'impôts, il y a toutes les lignes. Alors que dans d'autres pays, c'est bien. Allez voir quelqu'un dans la rue et demandez-lui
s'il est capable de dire combien il cotise tous les mois à la sécurité sociale.
Parce qu'elle tournait.
Encore une fois, je me réfère encore une fois à ce qui a été dit ce matin. Et encore une fois, ce n'est pas un sondage qui était exposé ce matin pour le grand débat, mais il ressort exactement la même chose, c'est que les gens veulent plus de transparence, veulent comprendre exactement où va leur impôt et avoir une meilleure lisibilité. Donc je partage de ce point de vue-là.
Sur la question de l'école, attendez.
Ce que veulent les Français, c'est ne plus être enfumés. Eh bien ça tombe bien, parce que tout de suite on va écouter Ce qui nous fume, c'est signé Radio Elvis.
Ce n'est pas le revoir, ce dernier mot dans nos regards. Tout ne meurt pas en un soir, non, ce n'est pas ça le revoir. Ce n'est qu'une fin du monde, une longue maladie sans mémoire. Tout s'est écrit dans nos ombres, nous n'avons pas voulu le voir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Et dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume, et dans tout ce que nous fume. Nous avons tous les mêmes prisons, les mêmes désir à faire naître avant de tout faire disparaître aux couleurs tristes des maisons. Dans l'alcool caché sous l'évier, les silences lourds des dîners. Nous avons tous ce vide immense, ce sourire pâle à maquiller. Mais ce n'est qu'une fin du monde qui s'écrit sans nous le dire. Sous les cigarettes qui flambent, tout le monde se cache pour vieillir. Tout ce qui nous fume est dans tout. Tu vois tout ce qui nous fume, et dans tout ce que nous fume, tout ce qui nous fume, et dans tout ce que nous fume.
Ceux qui nous fument, signé Radio Elvis sur France Inter. Ils seront en concert au Printemps de Bourges le 20 avril prochain, au Francofolie de La Rochelle le 10 juillet. La programmation est pyromane ce soir. Elle est signée Jean-Baptiste Audibert.
Ils nous disent que cet ISF n'en rapporte rien. Bon, 4 milliards quand même, je crois que c'est pas rien, quoi. Quoique sur les hôpitaux et sur les écoles, je crois qu'ils en auraient bien besoin.
France Inter. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ?
On en a marre, on fait que payer, vous le comprenez pas ?
Prendre l'automobiliste pour une vache à lait, moi je dis non, 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 il y en a marre.
Le nouveau rendez-vous ?
Écoutez-nous, faites quelque chose, la goutte d'essence fait déborder le réservoir.
Laurent Goumard.
Il y en a vraiment qui ont le sens de la formule, hein. La goutte d'essence qui fait déborder le réservoir et le fameux « mais qu'est-ce que vous faites du pognon ?» J'ai adoré ce gimmick. Jacqueline Moreau, elle était formidable. Christophe Bourseiller, ce soir, au Énervé la suite, on parle de l'impôt, de la taxe, des redevances, des niches fiscales, bref, tout ce qui nous passionne, car c'est ça la véritable passion française. Christophe ?
Absolument, et là j'aimerais repartir avec Pascal Tournier, parce que vous avez...
Journaliste.
Journaliste à La Vie, et vous avez publié dans La Vie un dossier épais, vraiment intéressant, qui s'appelle « Les nouveaux visages du don », dans lequel vous parlez de cagnotte, de start-up solidaire, de mécénat de compétences, de philanthropie dynamisée, en disant, mais au fond, est-ce qu'un jour on remplacera pas l'impôt vertical par des systèmes horizontaux ? C'est ça votre idée ?
Oui, alors je vous rassure tout de suite, on est encore sur des sommes qui sont bien inférieures aux sommes collectées par les impôts ou même par ce qui est donné aux associations. Mais ce qui, effectivement, on a essayé de dresser comme panorama dans ce numéro de La Vie qui étreint, je le dis au passage, une nouvelle formule, c'est de montrer qu'effectivement il y a des nouveaux visages du don, des nouveaux réseaux de circuits de solidarité qui passent véritablement par le privé, et illustrent véritablement cette tendance de fond, je pense, qui est, on veut savoir quand on donne, que l'euro qu'on donne soit efficace, utile. On veut une véritable transparence et on veut choisir. Donc j'en veux pour preuve, par exemple, le système des cagnottes qui s'est beaucoup développé ces derniers temps, ça, notamment, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes. Mais je trouve que c'est pas anodin, justement, que ça soit passé pendant la crise des Gilets jaunes, parce que ça, véritablement, ça met en lumière ce côté, on va se débrouiller tout seul, on va monter nous-mêmes par les grâces aux nouvelles technologies, un système qui va être efficace et qui va véritablement aller là où on veut, ce qu'on veut soutenir. Donc ce qu'on a relevé, par exemple, bien sûr, il y a ces fameuses cagnottes dont vous avez entendu parler en faveur du boxeur ou en faveur des forces de l'ordre, mais il y a aussi des cagnottes, par exemple, qui ont été montées pour aider des agriculteurs en difficulté. Il y a cette fameuse petite jeune fille qui a appelé à l'aide pour aider ses parents qui étaient totalement endettés. Il y en a eu d'autres pour essayer de supplier le manquement de l'État pour le passage, pour aider les agriculteurs à passer en bio. Mais il y a aussi cette infirmière à Privas qui a essayé de tirer un peu la sonnette d'alarme pour qu'on puisse financer son hôpital qui pouvait éventuellement être menacé de fermeture. Donc il y a véritablement un changement de paradigme. Moi, j'utilise véritablement ce mot-là en termes de réseau de solidarité.
Mais la société s'organise parce que l'État ne fait pas son travail, Henri Sterdyniak ?
Oui, d'abord, bien sûr, c'est tout à fait souhaitable qu'effectivement, il y ait des initiatives... locale, sociale,
citoyenne,
c'est tout à fait important. Maintenant,
il faut bien voir
que ça peut pas compenser la disparition des services publics.
Bien sûr,
on peut pas dire on va retourner au 19e siècle, on va avoir des bien écoles sûr. Qui vont être financées par les châtelains ou par les religieux et où vont aller les enfants. On va pas avoir des hôpitaux qui vont dépendre de la gentillesse des grandes entreprises. Déjà le mécénat des grandes entreprises, ça pose déjà problème.
Non mais ça je suis d'accord avec vous.
Il faut rappeler une petite histoire amusante, c'est que l'ISF a disparu, ça a rapporté 3,3 milliards aux plus riches. Normalement, on s'attendait à ce que ces 3,3 milliards, ça ruisselle vers les dons, vers les associations qui auraient bénéficié. On pensait que les riches allaient être reconnaissants, qu'ils allaient donner aux associations par le mécénat. Or, au contraire, le fait de supprimer l'ISF et donc la... niche fiscale associée, ça a fait baisser de 50% les recettes d'un grand nombre d'associations. Les riches ne sont pas forcément généreux. Les riches ne sont pas forcément généreux.
C'est
comme ça qu'ils sont devenus
riches. Jean-Baptiste Noé. Ça s'est reporté aussi.
Jean-Baptiste Noé, c'est l'impôt sur le revenu. Mais ce que vous dites est très intéressant, c'est la mythologie de l'impôt. C'est effectivement l'idée qu'il faut que les riches payent. On est exactement dans une sorte de religion païenne avec un sacrifice humain qui est le sacrifice du riche. C'est René Girard qui l'a très bien montré, qui est un de nos plus grands anthropologues, qui est il y a cette idée que le riche doit payer. On ne sait pas qui est le riche. C'est le riche, avec un R majuscule. Et en sacrifiant le riche, eh bien, la société va bien. Et on est dans l'ordre du mythologique. Dans le livre, j'évoque le mythe de Thésée et du Minotaure. C'est exactement la même chose. On a l'impression de retrouver les mythes grecs. C'est d'ailleurs très intéressant, du point de vue de la permanence de la culture française, de voir qu'on est encore dans l'impôt, et plus que jamais dans l'ordre du mythologique.
Donc il faudrait faire payer les pauvres.
Non, il faut avoir une vision. Non, il ne faut pas faire payer. Il faut. Mais je trouve que d'ailleurs, la question du don est fondamentale. On l'a vu également avec le taux du patrimoine. Alors malheureusement, plupart n'a pas été... Pour le patrimoine, ça a été dans les caisses de l'État, 1,50€ dans le patrimoine sur les 15€ du ticket. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que les gens étaient ravis d'acheter un ticket pour savoir que ça allait permettre le financement, la rénovation du patrimoine. Mais cette notion de don est essentielle parce qu'elle crée une société subsidiaire et elle crée une société du don et de la véritable solidarité.
Agnès Verdier-Molinier.
Sur cette question, je trouve que c'est intéressant de mettre quelques chiffres derrière ce que nous disons. Parce qu'en impôt direct, quand on compte évidemment l'impôt sur le revenu, la CSG, la taxe d'habitation, la taxe foncière, l'impôt sur la fortune et les droits de succession, ce qu'on appelle les droits de mutation à titre gratuit, la totalité, ça fait 250 milliards. Et le dernier décile, c'est les 10% les plus aisés de France, ils payent plus de 50% de l'addition de ces 250 milliards. Donc il faut qu'on arrête de dire que les riches ne payent pas d'impôts en France. Ce n'est pas vrai. Ils payent déjà, ils surpayent. Il n'y a pas de pays équivalent avec cette montée entre les 10% d'avant et les derniers 10%. Où on voit très très bien sur les graphiques, c'est impressionnant que tout d'un coup, il y a cette surcharge de l'impôt en addition. Donc leur reprocher, on est toujours dans la fiscalité punitive, reprocher à ces personnes-là de ne pas payer assez alors qu'ils payent plus de la moitié de la totalité de ces impôts directs, c'est quand même assez incroyable qu'on soit encore dans cette logique-là. Et dire que, par exemple, on va revenir sur des niches fiscales, eh bien, c'est augmenter l'impôt encore de ceux-là et des déciles qui sont proches d'eux. Parce qu'en réalité, enlever des niches fiscales, c'est rajouter de l'impôt à ceux qui en paient. Et ceux qui en paient le plus, c'est encore ceux-là. Donc, est-ce qu'on va sortir par le haut de ce grand débat en rabâchant des choses comme ça, en disant qu'ils ne sont pas assez généreux, ils ne payent pas assez, etc. Je trouve que c'est tout à fait délétère. Et je trouve qu'on devrait trouver plutôt des incitations intelligentes à ce que ces personnes-là soient incitées à rester en France, à investir en France, à investir en capital dans nos entreprises, à créer les emplois de demain.
Il y avait une vingtaine de députés de La République En Marche qui avaient proposé pendant le grand débat la mise en place d'un nouvel impôt sur la fortune, c'est-à-dire de taxer les montants qui n'iraient pas investir dans les entreprises françaises.
Mais c'est totalement punitif, une fois. Alors que les mesures qu'il faudrait prendre, c'est pas du tout ça. C'est l'idée de garder chez nous ceux qui créent les emplois, ceux qui se transmettent les entreprises de génération en génération sur nos territoires. Moi, je passe ma vie à aller voir des entrepreneurs en France. Et ils attendent que ça, qu'on leur facilite les choses, qu'on incite à investir. Et quand on voit ceux qui sont partis en Belgique, ceux qui sont partis en Suisse, c'est très triste pour la France parce que c'est autant de viviers d'emplois, de viviers de talents qui sont partis pour des raisons fiscales, 3 milliards d'euros par an qui ont été là.
Toujours dans ce dossier sur l'économie, enfin cette nouvelle économie du don qu'on développe, on cite justement des initiatives de la société du haut, pour faire court. Notamment, on parle de cette fameuse initiative lancée par Denis Weinberg et Denis Duverne sur une forme de giving pledge à la française, c'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui...
Je sais pas ce que c'est quoi.
Ça veut dire que c'est sur le modèle de ce qui se passe aux États-Unis, de ces grands milliardaires américains, de donner 10% de leurs revenus à des fondations, à des associations, etc. Et donc aujourd'hui, on a à peu près je ne sais plus le chiffre en tête, je vais vous redire ça, précisément, on a... on a 60 personnes aujourd'hui, 60 milliardaires français qui ont décidé de donner 10% de leurs revenus à des associations, enfin en tout cas à des non-solidaires. Donc il y a quand même des initiatives qui se font, ils ne sont pas taxés, mais ils décident encore une fois de choisir librement ceux ou les causes qu'ils veulent défendre.
Il faut rappeler d'abord que sur l'impôt de solidarité sur la fortune ne portait pas sur le capital professionnel et donc que les gens... qui effectivement investissaient dans leur entreprise, les familles qui investissaient dans leur entreprise ne payaient pas l'ISF. Il faut rappeler que les gens qui partaient avaient en moyenne 59 ans, donc on ne peut pas dire que c'est les gens les gens innovants. Et par ailleurs,
c'est pas innovant, il n'est pas
question. 59 ans peut être très innovant.
Il n'est pas question de punir les riches. Il est question simplement de dire chacun doit contribuer à l'impôt en fonction de ses capacités contributives. Et donc les gens qui ont des capacités contributives importante, il est normal qu'on les fasse payer de façon importante. Il ne faut pas arriver à un système où effectivement on ne va pas taxer les plus grandes entreprises et les plus riches et on va compter sur eux pour faire du mécénat, parce que le mécénat des plus riches et des plus grandes entreprises, c'est un mécénat orienté.
Je veux dire, on est en retard aussi pour l'émission et on finance le débat ce soir de cette passion française.
Sur les successions, par exemple, la Suède a mis les droits de succession à zéro. C'est un pays d'État-providence et ils ont mis à zéro. Il y a plein de pays comme ça. Pourquoi ? Pour garder leurs entreprises, parce qu'ils sont sortis de l'idéologie.
Ça sera le mot de la fin. Idéologie, c'était pas mal de finir
pas
là-dessus.
Mal,
ouais.
Pas mal.
Vraiment
j'ai
fort
un mot de la fin,
Agnès
Verdier-Molinier. J'en ai quand même un mot de la fin. C'est une phrase d'Henri Sterdignac avec l'aide de Laurent Goumard. Les riches ne sont pas forcément généreux. C'est pour ça qu'ils sont devenus riches.
C'est exactement ça. Merci à vous tous. Jean-Baptiste Noé, La révolte fiscale, histoire et théorie de l'impôt. Ça vient de paraître chez Calman Lévy. Henri Sterdignac, Macron, un mauvais tournant est toujours disponible aux éditions Les Liens qui libèrent. Agnès Verdier-Molinier, je rappelle que l'essai En marche vers l'immobilisme, 20 réformes lancées, oui, mais c'est chez Albin Michel. Et enfin, Pascal Tournier, on peut vous lire dans les pages de La Vie, nouvelle formule. Et sur un autre sujet, je rappelle que votre enquête sur les nouveaux conservateurs, Le Vieux Monde est de retour, est toujours disponible chez Stock.
Thank you.
Et voilà, on se quitte avec ce duo qui dépasse les frontières. James Blake et Rosalia à retrouver en concert au This Is Not a Love Song Festival à Nîmes. Ce sera le 31 mai prochain. Mais d'ici là, eh bien, le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Cette année, c'est chaque jour des 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast ou alors 22h minuit à l'antenne. On vous attend sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et oui, les trois à la fois avec le hashtag NRVFI. Marion Lelay et Juliette Medeviel ont signé la réalisation. Virginie Rouzic, Benoît Lagan, Corinne Valente, Grand Besançon et Gaëtan Lévy, ça c'est pour la préparation. À la technique ce soir, Grégory Wallon et Julien Dumont. Demain, on se retrouve toutes et tous et on sera là avec lui. Blik Bassi en live pour son nouvel album 1958, un hommage à Ruben Niobe, un héros de l'indépendance camerounaise. À ses côtés, Lou Delage qui s'envoie en l'air dans le film Blanche comme neige. Et dans le NRV, la suite, Game of Thrones, c'est la saison fin. Enfin, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.
Rendez-vous. Tu m'as donné rendez-vous demain.